Il est chez lui. Son GSM sonne. Son GSM sonne pendant qu'il est à table. Viens me rejoindre, Wiesel. Content, il décide de piquer la voiture de son frère. Il fait le beau, se met au volant et s'endort. Le mec s'y croit plus. Il roule à du 200 km/h. Il accélère, accélère, projeté dans le décor. Parc du Caravelle, au passage, il arrache un banc sur lequel une vieille dame était tranquillement installée. La voiture atterrit dans un étang. Horrifié, sonné, blessé, il sort de la voiture. À ses trousses, 20 policiers, matraque à la main. Et lui, il court, court, mais c'est trop bizarre. Le paysage ne défile pas. C'est comme s'il faisait du surplace. Et là, un des policiers lui tire dessus. Le sang coule même pas. Il ne ressent aucune douleur. Et au contraire, sa course s'accélère. Et il arrive à l'ESME. Le Ezel apparaît d'un coup. Et là, il la voit. Mais il n'arrive pas à lui parler. C'est comme si elle ne comprend pas. La vieille du parc apparaît. Et s'approche de lui. L'agresse. Et au moment où il voit son poing se serrer, s'avancer, tout droit vers son visage. Il se réveille traumatisé. Et il se dit, cela me rassure, mieux vaut un cauchemar apprivoisé que la blessure de la réalité.
On s'aime un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout. C'est l'histoire de Bouclette qui vivait avec sa mère. C'était une famille qui s'aimait beaucoup et qui s'entraidait. Il y avait bien quelques disputes, mais c'est comme dans chaque famille. Bouclette est très gentille et s'entend bien avec tout le monde, surtout avec son meilleur ami. C'est son voisin qui habite dans la maison mitoyenne à la sienne. Ils sont toujours ensemble et ils sont très complices. Mais le problème, c'est que sa mère n'accepte pas cette amitié, car son voisin, qui s'appelle Emilio, est italien et Bouclette est égyptienne. Et sa mère trouve que deux personnes d'origine différente ne peuvent pas s'entendre. Un jour, Bouclette traîne dans la rue avec son ami. Et là, Bouclette aperçoit sa mère qui lui hurla.
Qu'est-ce que tu fais avec ce garçon? Rentre à la maison, tu ne sortiras plus jamais.
Bouclette est désormais enfermée dans sa chambre. Elle est tellement triste, son ami lui manque tellement. Elle décide de s'échapper par la fenêtre. En sautant, elle fait une grosse chute. Et là, elle se retrouve à l'hôpital. Sa mère culpabilise, car elle voit que Emilio vient toujours rendre visite à sa fille. Et en plus de ça, elle le trouve gentil, charmant et très sympa.
J'étais tout jeune lorsque j'ai joué les matchs les plus importants de ma carrière. L'entraîneur m'a dit qu'il y a des recruteurs de grande renommée. C'est pour ça que je me donne à 100% à l'entraînement et en même temps je les guette du coin de l'œil. À la 10e minute, le coach me fait rentrer sur la pelouse et me chuchote à l'oreille les dispositifs. Après 30 minutes de jeu, je reçois un choc terrible au genou. Je m'écroule à terre et je hurle des douleurs. Le staff médical me prend en charge. À la fin du match, les médecins du club me disent qu'il me faudra 5 mois d'éradication. Et alors là, la descente aux enfers commence. Je ne vais plus m'entraîner, plus sortir. Mais mon père me donne la motivation nécessaire et je me ressaisis. C'est à ce moment-là que je repars chez les kinés et je travaille dur. Après les 5 mois de rééducation, j'ai pu rejouer et même blessé, je n'ai rien lâché. Voilà pourquoi ne jamais abandonner, c'est ma fierté.
Vous savez où je pars demain? Je vais en vacances où il y a le soleil, la mer bleue turquoise. Enfin fini le mauvais temps, le bruit des vagues, la sensation du sable chaud sous les pieds. Les magnifiques couchers de soleil, les soirées tardives au bord de la corniche. Mais un soir, tout bascule. Bam! En rentrant chez moi, sur le trajet, j'entends « Myriam! Myriam! Myriam !» Et là, je vois de mes propres yeux une tête d'humain sombre sur un corps de chèvre et qui me fixe. Je me mets à courir et à courir. Et d'ailleurs, je ne pensais pas courir aussi vite. J'arrive chez moi en pleurs et en tremblant. Ma grand-mère me demande ce qui se passe, mais sous le choc, je n'arrive pas à lui dire. Elle insiste tellement que je craque et je lui dis tout, détail après détail. Elle me regarde et me dit « Binti, tu sais, tu n'es pas la seule à l'avoir vue dans le village. Tu vois la femme qui venait tous les jours à la maison, elle aussi l'a vue. Et 48 heures après me l'avoir racontée, elle est morte. J'espère que tu comprends maintenant que certaines histoires doivent être tues. » Depuis ce jour, j'admire la force de caractère de ma petite grand-mère. Moi qui suis de nature peureuse, c'est une bonne leçon de voir que l'on peut affronter ses peurs et vivre heureux.
L'histoire que je vais vous raconter se déroule un soir d'hiver au soleil couchant. J'ai deux meilleures amies, Imen et Inès. Les vendredis, on passe la soirée ensemble. Ce soir-là, la faim grouille dans nos estomacs, mais les armoires sont vides. Alors, on part faire des petites courses. L'épicerie se trouve au fond d'une rue immense et sombre qui se termine en impasse. En marchant, je l'ai remarqué dans sa voiture. Il doit avoir dans la trentaine, de gros sourcils noirs et un sourire carnassier. J'ai un peu peur. J'entends le moteur gronder. À ma hauteur, il baisse la vitre et me parle. Je ne comprends rien, mais il me dégoûte. Un peu plus haut, il fait griser les pneus de sa bagnole et me frôle avec sa carcasse de métal. J'ai jamais couru aussi vite de toute ma vie. Mes amis crient à l'aide derrière moi. Mais je m'en fous. Je pense qu'à sauver ma peau, là. Arrivée au grand boulevard, j'arrête une voiture et monte dedans. Ma seule préoccupation est de fuir ce quartier le plus vite et le plus loin possible. La dame me raccompagne chez moi. Ouf, je suis sauvée. Mais sauvée de quoi? Un énorme sentiment de culpabilité m'envahit. Jamais je ne m'étais retournée pour aider mes amis. Et jamais elles me le pardonneront. Je n'ai plus de vendredi avec elles. Fini les éclats de rire et la joie qu'elles me procuraient. Alors aujourd'hui, je me suis fait une promesse. Je ne laisserai plus jamais tomber mes amis et je serai là quand ils en auront besoin.
L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui s'est passée il y a quelques années. Une jeune fille qui s'appelait Bertha était passionnée de nourriture et ressentait un plaisir indescriptible lorsqu'elle mangeait un repas. Que ce soit sucré, salé, fondant au chocolat et tout ce que vous pouvez imaginer d'autre comme forme de nourriture. Manger, c'était pour elle une forme de paradis. Évidemment, elle était petite, solitaire et grosse. Ses bourrelets dépassaient de son t-shirt. Cependant, cela ne la dérangeait pas du tout. Rien au monde ne pouvait briser cette relation qu'elle avait si forte avec la nourriture. Et pourtant, un jour, déambulant sur les rues de la ville, tout en savourant son délice favori, le fameux McFlurry coloré d'M&M's et enrobé de chocolat et de caramel, Bertha fit une découverte inattendue qui chamboula sa vie. Devant elle se trouva un tas de personnes couchées sur des paillasses sales, n'ayant comme couverture que des vieux cartons. Elle ne pouvait même pas distinguer leurs vêtements qui avaient la même couleur que cet endroit sale. La gare était envahie par des familles, des personnes âgées qui n'avaient pas de lieu où vivre. Le dégoût l'envahit, non pas contre ces personnes, non, contre elle-même. Elle qui mangeait tous les jours à volonté et qui en abusait même. Elle ne pouvait même plus se supporter. Les gens devant elle ne pouvaient même pas se lever, il manquait d'eau, de nourriture. Alors, figée, les yeux grands ouverts, Elle comprit à cet instant qu'elle pouvait changer les choses et les aider. Elle s'engagea dans une ASBL pour venir en aide aux SDF et partage ses repas avec eux. En outre, elle se prend en main. La petite, grosse, fan de McFleury devient une demoiselle, dévouée et responsable. La gourmandise se déguste avec plaisir et se partage entre amis.
La vérité, j'ai pas le choix de vous raconter cette histoire, mais bon.
C'était une fille, aux longs cheveux bruns et aux yeux verts, qui menait une chouette vie, MDR. Elle aimait bien aller à l'école, une vraie lèche-botte. Elle n'avait aucun souci, elle menait une vraie vie d'enfant. Elle avait tout ce qu'il faut, et elle ne se souciait de rien. Elle était vraiment dans un monde de bisounours. Enfin bref, quand elle arriva en secondaire, tout a changé. Petit à petit, elle commence à connaître tout le monde. C'est ce qu'elle disait. Elle fréquenta des gens auxquels elle ne s'attendait pas. Ce n'était pas son monde, mais elle essayait d'en faire partie. Elle était discrète, elle avait du répondant, mais elle n'aimait pas se montrer en public. Mais forcément, à force de fréquenter ces personnes, elle devenait comme elle. Bah forcément, elle a un prénom. Cette fille dont je vous parle, elle s'appelle Sakina. Sakina commença à brosser les cours, se faire envoyer des écoles. Mais même comme ça, elle ne comprenait rien. Rien n'y faisait. Sakina continuait encore et encore sur cette mauvaise voie. Jusqu'au jour où celle pour qui elle aurait tout fait, vous connaissez l'amitié, hein, lol. Devinez quoi? Ben, elle lui planta un couteau dans le dos. Comme toute jeune fille naïve, Sakina réalisa, un petit peu tard, qu'on pouvait faire confiance qu'à soi-même et que la vie ne tournait pas juste autour de ses amis.
C'est l'histoire d'Anso. Elle a 30 ans et est maman d'une adorable petite fille qui s'appelle Lisa. Un jour, à l'école de sa fille, elle croise un type beau, grand, musclé, avec un petit regard. C'est le coup de foudre. Et une belle histoire d'amour commence alors. 2 ans plus tard, une demande inattendue lui est faite. Paul la demande en mariage. Mais malheureusement, ça s'annonce mal, très mal. Des doutes naissent. Son chéri est-il vraiment fidèle? Elle a le sentiment de se sentir trahie, de ne rien savoir de lui. Elle décide alors de mener son enquête. Qui est cette femme? Qui est cette femme avec qui il traîne tous les jours? Qui sont tous ses enfants entourés de lui? Victime peut-être de son imagination, elle se sent trahie et s'en va. Paul tente de la joindre, mais en vain. Un matin, elle reçoit un appel qui va tout changer. Elle comprend que Paul est un enfant adopté et que la dame est sa sœur de cœur. Les enfants sont les enfants de l'orphelinat dont il est dirigeant. Aujourd'hui, ils sont heureux ensemble. Comme quoi, il ne faut toujours pas se fier aux premières impressions et faire confiance à l'amour.
C'est l'histoire de deux jeunes gens qui sont fous l'un de l'autre. Samira a 20 ans et Samir 22 ans. Ils rêvent de passer leur vie ensemble. Ils font tout à deux. Ils sont liés comme les doigts de la main. Mais le père de Samira n'est pas au courant de leur relation. Un jour, un coup de téléphone change leur vie. Le père de Samira lui annonce qu'il va la marier. Samira est heureuse car elle est persuadée que c'est Samir. Le grand jour arrive. Comme la tradition le veut, les mariés ne se voient pas jusqu'à la fin de la fête. Le soir tard, c'est face à un vieil homme qu'elle se retrouve. Elle ne comprend pas tout de suite, mais quand il s'approche pour l'embrasser, ah ! Le cauchemar devient réalité, c'est lui, c'est son mari. Trahie, désespérée, elle s'enferme dans sa tour d'ivoire. Son père n'arrête pas de lui envoyer des messages, mais rien n'y fait. elle ne répond pas. Une nuit, son mari meurt dans d'atroces souffrances. Elle décide alors de comprendre. Son père lui explique que cet homme ne lui avait pas donné le choix, qu'il menaçait toute sa famille. Il lui demanda pardon, mais sa confiance était trahie. Elle décida de quitter le pays et partir loin de sa famille. Elle s'engagea alors en Afrique et s'est battue contre le mariage forcé. Aujourd'hui, elle en a sauvé des vies. Les petits ruisseaux font les grandes rivières.